Audiolib présente L'Arbre de fer de Michael Connelly. Traduit de l'anglais par Robert Pépin. Lu par Damien Viteka. À toutes les âmes perdues en ce monde. Première partie, le bosquet. Chapitre 1. S'il entendait bien l'avion, Stilwell n'arrivait pas à le voir. La lune et les étoiles brillaient au-dessus de la couverture nuageuse et l'avion tournait sans aucun doute tout feu éteint autour de l'île. Des craquements se firent entendre à la radio, puis Quigley parla.
Vous entendez ça, patron ?
Stilwell porta sa radio à la bouche. Affirmatif, répondit-il. On ne bouge pas, tenez-vous prêts. Il cessa de regarder le ciel et prit ses jumelles pour surveiller Airport Road à ses pieds. Alors, il repéra un véhicule qui avançait lui aussi tout feu éteint pour gagner la piste d'envol au sommet de la montagne. « Véhicule terrestre en approche, » reprit-il. « Feu éteint. »«
Bien sûr, »
dit Quigley. C'était un véhicule tout-terrain. Il franchit le portail ouvert, accéléra jusqu'à la végétation qui longeait la piste, fit demi-tour et recula dans les buissons. Et là, ses feux s'allumèrent. Plein phare à l'avant et une rampe de puissant halogène sur la barre de toit. Le premier tiers des 500 mètres de piste était désormais suffisamment éclairé pour l'appareil qui continuait de tourner au-dessus. Stilwell reprit sa radio. « Ok, on fait comme prévu, » lança-t-il. « À mon signal. »
« Bien sûr. »
répéta Quigley. Ça allait être son premier test. Alton Quigley était sur l'île depuis à peine 2 mois, et Stilwell ne savait pas ce que le bonhomme avait dans le ventre. Mais il s'était dit que le mettre en duo avec Ilsa Ramirez était la seule chose à faire. Elle était son adjointe la plus fiable, ce qui, un an plus tôt, n'aurait pas signifié grand-chose. Mais après quasiment 2 ans sous les ordres de Stilwell, elle était devenue un des membres les plus solides de l'équipe du poste de police de Santa Catalina. Le bourdonnement de l'unique moteur de l'avion grandissant, Stilwell comprit que le pilote avait entamé son atterrissage. Il sentit son pouls s'accélérer et la charge électrique du danger potentiel. Quigley et Ramirez avaient pris place dans un SUV garé au fond d'un des hangars ouverts de l'aéroport, invisible depuis les airs. Stilwell, lui, se trouvait dans un second VTT à toit rigide, garé à proximité d'un abri à outils. Il n'y avait personne d'autre. Le tuyau était arrivé trop tard pour appeler des renforts du continent. Il avait dû faire avec ce qu'il avait, tout en laissant un adjoint en poste à Avalon au cas où l'info avait pour but de tenir toutes les forces de l'ordre à l'écart de la ville. Le moteur baissa de régime tandis que l'avion descendait du ciel enténébré pour gagner la piste partiellement éclairée. Grâce à l'habileté du pilote, l'appareil atterrit doucement et parcourut la piste jusqu'au terminal sud. Le VTT sortit des buissons et le suivit sur la piste, tous ses feux encore allumés.
« On y va ?»
demanda Quigley à la radio. Agacé, Stilwell secoua la tête. Quigley était tellement gonflé à l'adrénaline qu'il avait oublié le plan, ou décidé de l'ignorer. « Non ! On attend d'abord de savoir ce qu'ils vont laisser !» Ses jumelles toujours aux yeux, il continua d'observer ce qui se passait à la lumière du véhicule tout-terrain sur la piste. L'avion avait fait demi-tour et était maintenant prêt à redécoller. Le pilote n'avait pas éteint le moteur, l'idée étant manifestement de passer aussi peu de temps que possible au sol. La porte du cockpit s'ouvrit et un sac polochon orange fut jeté sur la piste.